tú eres muy malo, muy, muy malo. La interpretación siempre negativa, siempre negativa.
Le digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy.
En face, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid.
Piqué, il faut qu'il aille avec Shakira, avec tout, la carrosserie, je sais pas, regardez.
Puede pasar de todo. Una bomba o dos bombas, no sé.
No, es que no te entiendas, es que hablas muy raro.
Ah.
Esa es la diferencia.
Yo creo que vocalizo muy bien, pero
sí,
bueno.
Sí, bueno, pero yo en este caso creo que no.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Ligue Actu, le podcast 100% foot espagnol, avec un nouveau numéro hors série aujourd'hui. Alors on a parlé de l'Atlético de Madrid, c'était super intéressant, avec Timeo, Atleti Francia, on les salue. Là maintenant on va parler d'un autre club qui est pas mal dans l'actualité aussi et qui a vraiment besoin d'un podcast spécial pour revenir sur tout ça, c'est Villarreal, et on est avec Cyril pour nous en parler. Cyril, comment ça va ?
Bien. Il y a beaucoup de choses qui changent à Villarreal ces derniers temps, là, depuis le début de saison. Mais moi, même si j'ai un petit peu moins de temps à consacrer au compte, malgré tout, je suis toujours là et moi je ne change pas. Je suis là.
Bien sûr. Hein, le compte Villarreal Actu, bien sûr. N'hésitez pas à aller suivre. On est quand même là dans ce podcast avec un vieux de la vieille. Hein, c'est bon, depuis le début de l'aventure, il est avec nous et là, voilà, il faut revenir, il faut ouvrir certains dossiers. Et puis, bien sûr, un podcast Ligue Actu sans le préfet. Vous connaissez la musique. Ça ne serait pas un podcast Ligue Actu. Ruben, comment ça va ?
Bah, très bien, écoute. Super, super bien. Tu l'as dit, dans la lignée du BOTA sur Atlético de Madrid. On profite de cette trêve pour s'attarder sur quelques clubs qui ont une actualité chargée. Villarreal, effectivement, fait partie. Et puis, voilà, très content de retrouver Cyril, évidemment, dans les podcasts.
Ruben, l'un des rares à passer pour le moment une trêve heureuse. Hein. Je crois qu'il n'y a aucun joueur de l'Athletic Club qui s'est blessé durant ces deux semaines. Bon, c'est un peu plus compliqué pour beaucoup d'autres clubs, beaucoup d'autres supporters avec des blessures graves un peu partout. La dernière en date, bien sûr, Gavi avec l'Espagne, mais aussi Vinicius, Jérémy Pino pendant la trêve, même si... Voilà, c'est assez compliqué, mais parlons de Villarreal. Avec une première question pour toi, Cyril, vraiment, on va essayer de revenir un peu sur la naissance, la genèse, j'ai envie de dire, de cette galère. 4 mois de compétition et déjà 3 coachs. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle crise au sein de la direction ? Parce que le sens de la question, c'est de se dire, bon, s'il y a eu 3 coachs en aussi peu de temps, c'est que quelque chose a été mal planifié. Est-ce qu'il y a un problème déjà au niveau des dirigeants, selon toi ?
Alors, la genèse, comme tu dis, elle est à chercher il y a un peu, tout petit peu plus d'un an. Je reviens toujours là-dessus, mais c'est quand même là que tout commence. Sur la mauvaise gestion, je dirais, de la... Est-ce que ça pouvait être bien géré, je ne sais pas, mais de l'après Unai Emery, qui s'en va, on s'en souvient, un petit peu... je ne dirais pas comme un voleur, mais enfin, qui s'en va un peu de façon très, très précipitée. Les choses n'ont pas été bien préparées. On aurait pu imaginer, on pouvait imaginer que tout ça se ferait à l'intersaison précédente, sauf que Emery est resté, alors qu'il avait peut-être éventuellement des possibilités de départ, mais est-ce qu'il les a réellement envisagées à ce moment-là ? Peut-être pas. Il n'a peut-être pas eu les occasions qui sont ensuite présentées, avec l'occasion en l'occurrence avec Aston Villa. Et tout part de là, c'est-à-dire qu'à partir de là, tout n'a été que choix par défaut. Parce que la disponibilité de coachs sur le marché, et de coachs hispanophones en l'occurrence, parce que c'est quelque chose d'absolument permanent à Villarreal, on ne sort jamais de ça, et elle n'était pas si grande que ça. Il y avait déjà eu à l'époque, il y a un an de ça, entre autres noms, et qui était sorti celui de Marcelino, mais sauf qu'à l'époque, il était... Il attendait éventuellement encore la sélection. C'était encore envisageable à l'époque. Et finalement, il ne l'a pas eu. Ce qui fait qu'il avait hésité. Et puis, Setién est arrivé là-dessus. On sait très bien comment ça s'est passé. Des débuts un peu compliqués. Puis la trêve internationale, de la Coupe du Monde, pardon, qui le sauve. Et derrière, il se trouve que sur l'élan de l'après Unai et avec un vent d'air frais quand même malgré tout, parce qu'on même si c'est vrai qu'en termes de compétitivité, on y avait beaucoup perdu par rapport à l'ère Unai. On y avait quand même un tout petit peu gagné en termes de plaisir à regarder les matchs, où c'est vrai que c'était quand même très très verrouillé sous Emery, avec Villarreal qui était une des équipes les plus compliquées à jouer en Europe. Et là, on passait à tout autre chose. Mais malgré tout, l'un dans l'autre, on a quand même réussi à faire une fin de saison, une deuxième partie de saison en tout cas assez, assez convaincante. Ce qui fait que, ben, même si les gens n'étaient pas forcément convaincus par Setién, par l'homme et par sa façon de gérer le groupe qui a fini par éclater après à l'intersaison durant l'été dernier, bah, et finalement et voilà, il est resté en place et les problèmes qui étaient déjà le verre était déjà dans le fruit, donc les problèmes se sont exprimés avec d'autant plus d'intensité durant l'été, avec une préparation qui a été bâclée, je l'avais déjà évoqué lors d'un podcast précédent, et un vestiaire un petit peu coupé en deux, voire en trois, enfin avec une ambiance assez délétère. Et là-dessus, Setién finit par être démis après un très mauvais début de saison. Pacheta arrive. Là encore, au début, il y a un petit vent d'air frais qui souffle, parce qu'au moins sur la personnalité du garçon de Pacheta, qui a apporté quelque chose un petit peu de neuf là-dedans. Mais ça a fait long feu, quoi. Ça a vite vécu et ça n'a jamais réellement pris. Donc la faute à cet après-Emery qui a été difficilement géré. Je pense qu'on l'a compris sur le moment, mais on l'a encore mieux compris après, la perte qu'a pu être le décès de José Manuel Llaneza, il y a là aussi un peu plus d'un an de ça, au mois d'octobre 2022. C'était un personnage un peu tutélaire pour Villarreal, une sorte de président d'honneur. Il n'avait plus réellement de pouvoir, mais c'était quelqu'un qui faisait en sorte que les gens en place, notamment le fils Roche, faisait moins de bêtises, on va dire. C'était moins enclin à faire des bêtises au niveau des choix de joueurs, sachant qu'il n'y a pas réellement de directeur technique à Villarreal. Donc tout ça est un peu compliqué. Et le décès de Llaneza a laissé un grand, 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 grand vide. Et on le ressent vraiment aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a vraiment un seul être vous manque et tout est dépeuplé, comme on dit, et là pour le coup c'est vraiment le cas. Donc c'est un peu un mix de toutes ces choses là et là aujourd'hui voilà, on en est à repartir quasiment de zéro, avec quelqu'un qui connaît bien la maison, certes Marcelino, mais on va en parler après, c'est le pari est grand, le risque est grand et le boulot est immense.
Ouais, on le comprend bien, mais un enchaînement vraiment d'événements malheureux pour le sous-marin jaune, et c'est vrai que quand tout s'enchaîne comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Toi, Ruben, je pense que Cyril a été très complet, mais si t'avais envie de rebondir sur un point, ou si quelque chose aussi te marque par rapport à cette thématique, voilà, de la direction de d'où viendrait le mal, qu'est-ce que tu dirais?
Non, mais c'est clair que Cyril a dit plus que l'essentiel, mais évidemment que les torts sont partagés. Moi, je le rejoins en tout cas sur le constat qu'il dresse depuis le départ de Unai Emery, dont on a déjà beaucoup parlé ici, évidemment, mais puis même voilà sur Twitter et ailleurs, qui a été quand même, je le rejoins aussi, mal géré, mais on a tout de suite senti qu'avec Setién, il y avait pas forcément quelque chose qui n'allait pas, mais on a senti qu'il y avait une espèce d'ambiance qui était assez bizarre. Je me rappelle de la période justement juste avant la Coupe du Monde, où on se demandait si effectivement Setién allait rester en poste alors qu'il était là que depuis quelques semaines, et le choix a été fait de le garder. Et on se souvient que même avant la Coupe du Monde, il y avait aussi toutes ces informations qui sortaient avec des joueurs qui ne connaissaient pas forcément. Je pense qu'il y a Jérémy Pino qui ressortait beaucoup dans les noms que lui ne connaissait pas. Donc on sentait qu'il y avait quand même déjà une forme d'instabilité qui était là. Et évidemment, elle a perduré. C'est vrai que Je crois que c'était Emeric aussi qui nous en avait parlé, mais le fait de garder Setién, enfin l'été dernier, en tout cas l'été 2023, a été pas mal discuté, parce que c'est vrai qu'il a en soi obtenu cette place européenne et qu'il est allé la chercher avec l'équipe qu'il avait. Mais effectivement, il y avait aussi beaucoup de doutes et le choix était de le conserver. Et on a senti que voilà, même s'il y avait eu cette place européenne, il y avait une équipe quand même qui avait aussi avec elle beaucoup de failles, beaucoup de fragilités, et on en arrivait, bah voilà, au constat que Cyril dressait, et une situation qui s'est effectivement un peu envenimée après, avec beaucoup de choses qui ne vont pas. Effectivement, le choix de Pacheta aussi, pour moi, était discutable en lui-même, même si c'est vrai que Cyril l'a rappelé, il n'y avait pas non plus un panel d'entraîneurs qui était immense. Il y avait l'option Raoul, effectivement, qui se présentait et qui était, bah, probablement pas très loin de se concrétiser. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, Pacheta avait une connaissance déjà, une certaine connaissance du championnat espagnol. Après, est-ce qu'il avait les épaules pour une équipe comme Villarreal et pour les objectifs qui sont associés? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et effectivement, en tout cas, les débats qui sont
Justement, l'objet
tenus.
de la seconde question, préfet, là,
Voilà.
je crois qu'on ne peut pas mieux faire au niveau de la transition. Mais comme tu disais,
Je t'en
Pacheta,
prie.
alors il connaît la Liga, ouais, enfin, il connaît surtout la route vers la deuxième division, quand même, quand on regarde ses expériences récentes. Justement, Cyril, je t'emboîte le pas, préfet, mais est-ce que c'est un problème vraiment de costume pour Pacheta? Ou alors est-ce qu'on repart quand même aussi sur ce que tu nous as dit, avec avant tout un contexte qui est trop difficile et des maux bien plus profonds qui attendent Marcelino? Comment est-ce que tu vois, toi, la situation pour Marcelino? Est-ce que c'est l'homme providentiel un peu?
Problème de costume pour Pacheta, oui, mais enfin, moi je suis pas un grand devin, mais enfin disons que moi, comme pas mal d'autres gens, on s'est dit oulala, sans dire que Villarreal est un des plus grands clubs du monde, et voilà, en restant humble, mais malgré tout, des entraîneurs qui se sont révélés pour partie à Villarreal, il y en a eu. Mais là, on avait le sentiment que dès le départ, et en tout cas dans le contexte dans lequel on était, qui était quand même un contexte très très compliqué, très difficile, au niveau du vestiaire, au niveau des blessures, au niveau encore une fois, de cet après-Emery qui n'était pas digéré, d'un effectif qui perdait confiance petit à petit. Est-ce que quelqu'un comme Pacheta était la personne idoine pour s'occuper de ça? Je suis pas, j'en étais pas certain, et malheureusement, ce qui s'est passé ensuite m'a donné raison. C'est-à-dire que je pense que dans d'autres circonstances, avec un effectif qu'il aurait contribué à bâtir depuis le début, en repartant peut-être de la Segunda ou quelque chose comme ça, pourquoi pas? Mais là, avec des cadres qui sont quand même des caractères très particuliers, des Albiol, des Parejo, des Gerrard, des gens comme ça. Trigueros, qui doivent être convaincus un minimum du projet et du bonhomme. Je pense que Pacheta, malheureusement, n'avait vraiment, vraiment, vraiment pas les épaules pour ça, et c'était quasi voué à l'échec d'entrée. Voilà, c'est après. Je pense que malgré tout, on verra si le mal est plus profond. Je ne pense pas qu'il soit si profond que ça, parce que quand on voit le match contre l'Atlético de Madrid, donc le dernier match avant la trêve, dimanche dernier, eh bien, on a un match avec donc sans entraîneur réellement, avec Tena qui est à la tête de l'équipe, qui assure l'intérim, et on a vu peut-être ce qui était le meilleur match de Villarreal depuis le début de saison. Que Villarreal a fini par perdre 3-1 avec des buts en fin de match, mais Villarreal a fait un match très 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 costaud, un très bon match. Et ce match-là, je dirais, c'était presque Marcelino avant Marcelino. On avait l'impression que déjà tout le monde se mettait dans le bon tempo, et qu'on anticipait déjà l'arrivée de Marcelino, avec des gens qui le connaissent, bien évidemment, comme Parejo, qui est un de ses grands, un de ses, enfin, qui a lui plusieurs fois dit que Marcelino était le meilleur entraîneur qu'il ait jamais connu dans sa carrière. Enfin, il y a une relation très forte entre les deux. Donc, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se mettait en place avant même que Marcelino n'arrive. Je pense qu'il y avait ce besoin-là, quoi. Il y avait ce besoin de croire à nouveau à un projet fort avec quelqu'un avec un charisme très particulier, qui avait en plus une histoire très particulière avec Villarreal, qui s'est mal fini, mais qui avait une histoire très 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 intime avec ce club, et un entraîneur reconnu au niveau national, hein, je veux dire, il y a rien à dire. Donc je pense qu'il y avait vraiment besoin de ça, quoi, de croire à nouveau en un projet après cette époque Emery, qui a été quand même l'époque la plus faste de l'histoire de Villarreal, avec ce trophée, avec cette demi-finale de Champions League. Derrière, il fallait quand même quelque chose pour raccrocher un peu les wagons. Et je pense qu'il ne fallait pas moins que quelqu'un comme Marcelino pour ça, sachant que pour lui aussi, c'est quand même un sacré pari, parce qu'il sort d'un échec. Il n'a pas eu le temps, je dirais, de vivre un vrai échec sportif, parce qu'on ne lui en a pas laissé le temps du côté de Marseille, mais dans un contexte très particulier. Je pense, on l'a vu très ému durant la conférence de presse, pour plein de raisons, la conférence de presse de présentation. Et pour lui, c'est aussi un sacré défi. Je pense qu'il est conscient il est conscient de ce défi, il est conscient de l'énorme challenge que tout ça représente. Il est à nouveau, et depuis un petit moment de ça, en très bons termes avec la famille Roche, ce qui a longtemps plus été le cas. On se souvient que ça s'était fini en eau de boudin en 2016. Pas pour des raisons sportives d'ailleurs, pour des raisons extra-sportives. Et puis par rapport à la situation d'un club qui lui a toujours tenu à cœur, je veux dire, je me souviens de ses mots lors d'une conférence de presse d'avant-match, alors qu'il était entraîneur de l'Athletic Club, avant un quart de finale, si mes souvenirs sont bons, contre le Bayern, où il avait souhaité le meilleur à Villarreal. Tout ça c'est des choses qui avaient imprimé très fort, et ça avait beaucoup touché les gens à Villarreal. Donc je pense que, sans parler d'homme providentiel ou de sauveur, parce que lui-même a dit qu'il ne l'était pas, qu'il n'était pas un magicien, que ce n'était pas un faiseur de miracles, malgré tout, je pense que s'il y avait quelqu'un à même de relever une situation très compliquée, parce qu'elle est très compliquée malgré tout, c'était bien lui, même avec tous les blessés dont on a... qu'on a évoqué déjà, Jérémy, le dernier en date, Sorloth, qui ne sera pas là avant le début d'année prochaine. Et puis derrière, avec Aïssa Mandi, qui vient de se blesser avec l'Algérie. Enfin, c'est très compliqué à tous les niveaux. Il n'a pas la tâche facile. Mais je pense que s'il y avait quelqu'un à même de relever ce défi, c'était lui, et sûrement seulement lui. Voilà.
D'accord. Donc beaucoup de travail, et pareil, encore... beaucoup de vents contraires. Toi, Ruben, justement, il était à l'Athletic Club. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Marcelino? Voilà, si tu avais envie de peut-être lui rendre hommage. Je sais que c'est un entraîneur qui t'a beaucoup marqué.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui, effectivement, de par les mots qu'il a, justement Cyril en parlait très bien, mais même les expressions et la façon de voir le football, c'est quelqu'un qui quand même transmet une certaine allégresse, en tout cas, chez les supporters aussi, chez les joueurs, je trouve que c'est une des choses qu'on a le plus retenu à l'Athletic, en plus des moments qu'on a vécu avec lui, qui ont été d'ailleurs aussi bien bons que difficiles. Mais je pense que effectivement, c'est l'un des entraîneurs qui était les mieux placés pour ce genre de situation. Moi, je me souviens quand il arrive à l'Athletic aussi en début 2021, il y a quasiment déjà 3 ans de cela. Il y a évidemment la Supercoupe d'Espagne que personne n'attendait, avec les victoires contre le Barça et puis contre le Real Madrid et puis contre le Barça, mais il arrive quand même de manière générale sur cette seconde partie de saison à relever une équipe qui était, je vais pas dire au fond du trou non plus, parce que il y avait quand même toujours des joueurs et des bons matchs, mais une équipe qui quand même avait du mal à retrouver l'identité qu'elle avait pu avoir sous Valverde auparavant, qu'elle avait pu avoir même sous Bielsa, alors remonter n'est pas encore un peu plus lointaine, mais en tout cas il y avait du mal à avoir cette identité de jeu, et même si on va dire que Garitano, son prédécesseur, avait fait de bonnes choses, il y avait quand même un constat qui était assez triste au final, et on voyait une équipe qui était assez démunie, assez désarmée au final, et Marcelino arrive dans un contexte qui est difficile, peut-être pas aussi difficile que celui de Villar actuellement, même si il y a certains points qui évidemment se recoupent, mais il arrive en tout cas, et sur l'instant, sur les premières semaines, les premiers mois, c'est un entraîneur qui, de par la volonté, de par Le fait qu'il ait vite mesuré l'ampleur du défi qui lui faisait face, un peu comme c'est le cas aussi là à Villarreal, a réussi à remotiver tout le monde et finalement un peu ouais à refaire de cette équipe une équipe qui même si elle n'avait pas toujours les résultats, en tout cas reprenait plaisir à jouer. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu de ces 1 an et demi chez nous. Alors après, est-ce que ça sera la même chose à Villarreal? Ça, on le verra. Mais je pense qu'en tout cas, dans le court terme et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je pense que c'est un entraîneur qui, évidemment, a moyen de relancer Villarreal plus que, enfin, sur une très bonne dynamique en reprenant rapidement des bons résultats, en retrouvant aussi cette forme aussi de jouer, cette forme aussi de plus que de jouer le football, aussi de l'incarner, de le sentir. Après, voilà, ma question sera peut-être plus sur le long terme. J'en avais déjà un peu parlé sur Twitter, mais là, évidemment, il lui faudra des recrues parce que lui aussi l'a dit en conférence de presse, les changements d'entraîneur sont pas dû qu'aux entraîneurs, mais il y a aussi on a parlé de toutes les responsabilités, mais il y a aussi, je pense, une part des joueurs, évidemment, qui comptent là-dedans. Donc voilà, effectivement, à l'avenir, il faudra du 109. Mais sur l'instant présent, en tout cas, je pense que, voilà, comme Cyril le disait, comme on a pu le voir aussi à Atlético, l'arrêt dans une situation plus ou moins similaire, c'est l'entraîneur qu'il fallait. Et voilà, malgré son échec à Marseille, on a parlé brièvement qui bah voilà est forcément à compter parce que c'était quand même sa première expérience à l'étranger. Il revient dans un club qu'il connaît, dans un championnat qu'il connaît, avec des joueurs pour certains qu'il connaît aussi. Et puis effectivement voilà il a quand même aussi un certain enfin en Espagne c'est quand même quelqu'un qui est globalement respecté pour ce qu'il a fait à travers les différents clubs en particulier évidemment à Valence. Mais voilà en tout cas sur l'instant sur les prochaines semaines prochains mois moi je m'attends à revoir une équipe de Villarreal qui reprennent un peu de la forme et surtout voilà que un domaine où il excelle, il redonne cette envie aux joueurs parce que moi je disais toujours à l'Athletic et c'était aussi ce que beaucoup de supporters disaient qu'il avait plus ou moins le sourire contagieux, c'est que c'est quelqu'un qui voilà a une joie de vivre qui est assez impressionnante et en même temps assez naturelle et qu'il arrive à la transmettre à ses joueurs, c'est quelque chose de d'assez fort en tout cas et je vous souhaite évidemment pour lui, pour Villarreal et puis pour toi Cyril aussi que ça soit le cas aussi en tout cas au moins sur cette on va dire cette fin de saison même si on est encore loin du mois de juin quoi.
Et puis pour revenir maintenant sur allez un dernier point un peu négatif dans ce podcast avant de vraiment repartir sur du positif et ce qui peut ben, être les réussites de la saison. Ben, il y a eu un gros départ quand même cet été. Alors on sait que Villarreal a été l'un des clubs les mieux vendeurs, hein, avec par exemple Jackson parti du côté de Chelsea, Samuel Chukwueze parti du côté de l'AC Milan. Mais il y a eu ce départ de Pau Torres à Aston Villa. Il est parti rejoindre celui qui est parti un peu comme un voleur, Unai Emery. Est-ce que, alors même si on sait qu'il incarnait beaucoup, c'était l'enfant du pays, l'enfant vraiment le régional de l'étape, hein, si je puis dire. Est-ce que le départ de Pau Torres n'a pas été vraiment totalement sous-estimé? Est-ce que là, en plus maintenant avec la blessure d'Issa Mendy, on n'est pas face à une défense qui est en gros gros manque de repères?
Alors sous-estimé, c'est-à-dire que quand Pau s'en va cet été, déjà c'est quelque chose qu'on avait quand même un petit peu anticipé depuis plusieurs mercatos, en tout cas depuis le mercato d'été d'avant. Ça s'était pas fait, là ça s'est fait. On était déjà soulagés qu'ils partent pas ni pour le Real ni pour le Barça, pour dire les choses comme elles sont. Il rejoint Emery, c'était quasiment, c'était écrit presque en fait, hein, parce que c'est vraiment l'entraîneur qui en a fait le joueur qu'il est devenu. Je dirais que je ne sais pas si ça a été sous-estimé, mais dans tous les cas, on a peut-être surestimé celui qui devait être son remplaçant naturel, à savoir Jorge Cuenca, qui n'a pas forcément les mêmes qualités, qui est peut-être un peu plus dur sur l'homme, un peu plus costaud, mais qui a une sortie de balle qui est absolument incomparable avec Pau Torres, une faculté à casser les lignes et tout. On a évidemment jamais retrouvé ça depuis et ça nous manque énormément. Malheureusement, c'est vrai que derrière, c'est un peu le désert. D'ailleurs, on voit, les statistiques cruelle, mais très éloquente. Et elle ne, là, pour le coup, elle ne ment pas parce que c'est Villarreal est la 18e ou 17e ou 18e défense de Liga. Il n'y a que les deux derniers du classement qui font pire. Alors même que le gardien, le jeune gardien qui a réellement pris la suite cette saison de Pepe Reina, qui avait assuré la plupart du temps en fin de saison dernière, à savoir Jorgensen, fait pas du si mauvais boulot que ça. On pouvait s'attendre à pire. Moi, je m'attendais à franchement pire. Au final, il assure plutôt pas mal, mais c'est vrai que derrière, c'est quand même très compliqué. On n'est pas aidé non plus par les blessures depuis un petit moment de Pedraza à gauche et de Foyt à droite, qui vont revenir d'ailleurs, qui sont sur le chemin du retour. On devrait les revoir probablement pour le prochain match, le match de reprise en Liga contre Osasuna, en théorie. Mais c'est vrai que sinon, derrière, Gabia, malheureusement, pour l'instant, loin de donner toutes les assurances. Albiol, il est toujours Albiol, mais enfin, il a quand même 38 ans. On le sent, lui, c'est le premier à le sentir aussi. Donc, c'est très compliqué. Il y en a un sentiment qu'il y a. Il y a, il y a un, c'est là aussi la grosse tâche de Marcelino, c'est de gérer cette sorte de transition avec une équipe qui a vécu des choses absolument extraordinaires, avec des cadres du style Albiol, Parejo. Capoue, des gens comme ça, et qui aujourd'hui, en tout cas depuis le début de saison, sont des gens qui sont pas suffisamment là et qui sont pas suffisamment costauds et qui n'assument pas suffisamment. Et c'est ce que Pepe Reina disait d'ailleurs après le match en Coupe d'Europe, la victoire très très difficile contre l'équipe israélienne en Coupe d'Europe juste avant la trêve. C'était qu'il y avait certains qui devaient vraiment assumer beaucoup plus leur statut, beaucoup plus qu'ils ne le faisaient. Et là, Marcelino, il va les attendre au tournant, quoi. Parce que c'est sûr qu'il a le sourire communicatif, qu'il apporte beaucoup à ce niveau-là, mais c'est quelqu'un de très dur, Marcelino, très très dur. On en a un très bon souvenir à Villarreal, c'est quelqu'un qui est assez impitoyable là-dessus, il fait pas de sentiments. Et là, les premiers jours depuis qu'il est revenu au poste d'entraîneur sont très très révélateurs. C'est-à-dire qu'on est revenu à une préparation physique très 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 intense. Je ne sais pas ce que ça donnera d'ici la fin de l'année, au moins sans parler de fin de saison, mais d'ici la fin de l'année qui va être très intense là aussi, on verra. Mais avec vidéo, avec gymnase, avec etc etc. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont transpirer, qui vont baver, mais c'est sûrement ce qu'il leur fallait, puis peut-être, voilà, en plus après remettre les choses à l'endroit au niveau psychologique. Mais tout ça pour revenir à l'histoire de Pau, je pense que ça a été là pour le coup révélateur, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu là pour le coup un garçon jeune, et qui je pense qu'il sera amené évidemment à finir sa carrière à Villarreal dans plusieurs saisons, après une belle carrière j'espère pour lui, mais là, malheureusement, on sentait que voilà, on arrivait au bout de quelque chose. Lui aussi le sentait, voilà, c'était quelque chose malheureusement d'inévitable, et pour lui et pour nous. Ça a été vécu. Je pense qu'il est très heureux d'être là où il est, mais enfin, ça a été vécu quand même difficilement, comme un déchirement, évidemment, parce que c'est un garçon qui a Pau Torres, qui a toute sa famille à Villarreal, qui est vraiment un enfant du pays, et voilà, je pense que de voir la situation dans laquelle se trouve le club aujourd'hui, l'équipe aujourd'hui, doit l'atteindre sûrement aussi. Mais ouais, non, je dirais que malheureusement, le souci, c'est que son remplaçant naturel, Cuenca, n'a pas apporté ce qu'on pensait qu'il pourrait apporter. Et ça, mis avec les autres soucis qu'on rencontre depuis le début de saison, malheureusement, ça explique une grande partie de nos difficultés, notamment défensives.
Très bien, très bien. Je pense qu'en plus, Pau Torres, il va nous servir d'excellente transition, parce que on se rappelle toujours un peu de cette photo de Pau Torres qui lève la Ligue Europa. Voilà, le trophée remporté en 2021, le premier trophée de l'histoire du club. Voilà, c'est une image gravée à jamais. Justement, l'objet de ma prochaine question, Cyril, c'était, on l'a un peu évoqué, mais le sous-marin jaune est quand même largué en Liga. 12 petits points, si je ne me trompe pas, après 13 journées, c'est famélique, hein, tout simplement, pour une équipe qui normalement vise le top 4, ou du moins jouer ça l'année dernière. Est-ce que justement le club, l'équipe doit vraiment se focaliser maintenant sur la Ligue Europa pour sauver sa saison, un peu à la manière du Sevilla l'année dernière qui avait lui aussi connu une valse d'entraîneurs?
Oui, c'est la comparaison qui me venait à l'esprit au moment où avant que tu le dises. Il y a ça et il y a le fait que Marcelino soit aussi un entraîneur de coups et de coupes, et qu'il l'a prouvé à Valence, qu'il l'a prouvé à l'Athletic Club, qu'il l'a même prouvé à Villarreal, même s'il n'a rien gagné, mais enfin c'est le seul entraîneur qui nous a amené à une demi-finale de Copa del Rey. Alors que c'est une compétition qui ne réussit vraiment pas, il nous a aussi quand même amené en demi-finale d'Europa League, il faut s'en souvenir, perdu contre Liverpool déjà. Et donc c'est évident que la Liga, ça va être très compliqué, très très compliqué, parce que le retard pris, rien n'est jamais définitif. Hein. On se souvient que l'année dernière, au moment où Sétienne arrive avant la Coupe du Monde, au moment où la saison s'interrompt, on n'est pas en très bonne posture non plus, on est assez décroché, mais malgré tout, là je pense que cette année on n'a quand même pas non plus le même effectif. C'est ça qu'il faut voir aussi, c'est que comme tu le disais, on a perdu beaucoup de monde et que ces gens-là n'ont pas été remplacés. La seule recrue de poids qui pour le coup lui assume son statut, c'est Sorloth, mais qui est malheureusement blessé jusqu'à la fin de l'année 2023. Qui s'est fait les ischios, sinon si on accepte Sorloth, c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'aucune des recrues n'apporte vraiment ce qu'on attendait qu'elle puisse apporter, que ce soit notamment devant avec Brereton. Derrière, je dirais que Ça va dépendre de l'implication de tout le monde, je pense. Mais si tout le monde se met en mode comme un peu commando, notamment sur ces matchs européens, et je pense que c'est la culture à la fois de Marcelino et la culture de Villarreal, un peu comme ça pouvait l'être, toute proportion gardée, mais avec Emery, qui peut faire que ça aboutisse sur quelque chose de positif en Europe à ce niveau-là. Et en effet, je pense que si le focus doit être mis sur une compétition, ce serait plus là-dessus que sur la Liga, où là, déjà, je pense que devant, il y a des équipes qui sont mieux armées, qui sont mieux parties, qui ne lâcheront probablement pas, comme par exemple l'Athletic Club, la Real, toutes ces équipes-là, qu'on ne reverra probablement plus, quoi, qu'on aura beaucoup de mal à rattraper. Donc, je dirais, essayer de limiter les dégâts au maximum, d'essayer, pourquoi pas, d'aller assurer peut-être une... sait-on jamais, je sais pas, aller accrocher quelque chose en Liga, c'est sur un malentendu presque, si je puis dire. Mais malgré tout, oui, le focus peut être mis sur à la fois la Copa del Rey, qui va arriver là très très vite cette semaine, avec un déplacement à Zamora, et sur l'Europe, qui est quand même ancrée dans la culture à la fois du club, depuis plus de 20 ans, et dans la culture de Marcelino, l'Europe et les compétitions à élimination directe. Donc, toutes ces raisons qui font que oui, en effet, je pense que s'il y a vraiment une compétition, un secteur dans lequel on doit mettre tous nos efforts et dans lequel toute la concentration doit être posée, c'est sur la compétition européenne.
Ok, très bien. Ben justement, tu faisais écho de ce qu'a fait Marcelino. Ben justement, l'Athletic Club, hein, deux finales de Coupe du Roi, une finale remportée de Super Coupe. Toi, Ruben, justement, est-ce que tu es d'accord un peu avec Cyril brièvement sur le cap que doit prendre Villarreal pour le reste de la saison?
Oui, je vais faire simple, hein, de toute façon, je vais faire rapide parce que on l'a dit, l'écart en Liga, il est, même si on est encore loin de la fin de saison, il est quand même important. Il y a effectivement, on a déjà un peu parlé en plus ou moins entre nous, mais il y a déjà un certain écart entre le top 7, on va dire, et même le top 6, et puis le reste du championnat. Enfin, on voit un top 4 déjà qui est décroché, ensuite un top 5, 6, 7 qui est là aussi un peu isolé de l'avant et de l'arrière. Mais donc, effectivement, pour Villarreal, je rejoins le fait que ça sera très très difficile en Liga, mais surtout, et voilà, j'approuve moi ce que Cyril disait sur Marcelino, qui est un entraîneur de coupe, et puis voilà, on l'a vu, tu l'as dit, il y a eu ces deux finales bon, qui, ont, qui ont été perdus, mais le parcours quand même qui est fait pour en arriver jusque-là est à saluer. Il y a effectivement aussi ce trophée en Super Coupe d'Espagne. Il y a une autre finale aussi de Super Coupe d'Espagne qui est perdue l'année suivante. On va dire qui a été plus ou moins joué. Pas forcément très bien joué, mais ça a été le problème de Marcelino, c'est les finales jouées. Mais avant même voilà, de parler de finale, c'est quelqu'un qui gère très bien les compétitions, les matchs, les retours, même les confrontations, on va dire, à les simples. On se souvient aussi de la Copa, évidemment, qui décroche avec Valence, qui avait une symbolique toute particulière, évidemment. Donc non, moi je pense qu'effectivement, dans la situation où est Villarreal aujourd'hui, l'Europe c'est évidemment l'une des priorités. Et puis voilà, Marcelino, il y a quand même un CV, on l'a dit, en Europe. Et puis après, voilà, une compétition comme la Copa, pour pas rapider ce qu'a dit Cyril, simplement. Parce que voilà, en championnat, ça sera compliqué. Et même voilà, d'ici là, on sait qu'il y a aussi, même si bien sûr le classement va évoluer, il y a aussi d'autres équipes qui sont plus ou moins en embuscade, qui sont aussi devant Villarreal. Et qui vont, pour moi, voilà, ce sera compliqué de voir Villarreal européen via le championnat. En tout cas, il y a peut-être toujours une possibilité via la Coupe d'Europe, même si ça semble aujourd'hui, là, au 20 novembre, on enregistre ce podcast, assez difficilement imaginable. Voilà, il reste la Copa, sinon, évidemment. Donc ouais, affaire à suivre, j'ai envie de dire. Mais voilà, les matchs plus ou moins directs, en tout cas, sont maintenant ce sur quoi Villarreal doit se rabattre pour moi.
Ok, très bien. Bon, moi je partage aussi un peu votre avis. Et puis c'est vrai que ça détonne un peu de ce qu'on entend en France, notamment, où dès qu'un club est un peu en difficulté en championnat, mais joue une Coupe d'Europe, il se rabat directement sur le championnat. Et c'est aussi ce qui explique, je pense, l'énorme retard des clubs français face aux clubs espagnols, au palmarès des Coupes européennes, ou même dans les intentions. Justement, pour arriver à de tels objectifs et à relancer un peu la machine, il y a un homme qui, lui, par contre, ne cesse de performer. Alors, c'est vrai que des fois, il est sur le carreau, il est blessé, notamment l'année dernière, mais c'est Gerard Moreno. Déjà 8 buts cette saison, hein, voilà, il est un peu lui aussi en chasse de Jude Bellingham au classement du Pichichi. Il est devant Lewandowski et il est à égalité avec Antoine Griezmann. Il fait partie des trois joueurs dont les buts ont rapporté le plus de points à son équipe en Liga depuis le début de la saison. J'ai parlé d'homme providentiel pour Marcelino, mais est-ce qu'on peut vraiment utiliser du coup ce terme pour Gerard Moreno, selon toi, Cyril? On sait en plus que tu l'aimes bien.
C'est plus que ça même. Mais d'autant que on est vraiment malheureux avec lui depuis 2 ans. Parce que s'il n'a vraiment pas été épargné, quoi. Il a la saison 21-22 et 22-23 sont des espèces de calvaires par intermittence, parce qu'il revient, et puis il se reblesse, il revient, il se reblesse. Et quand on sait l'importance qu'a ce garçon, évidemment, sur la production offensive de Villarreal, mais à tous les niveaux, que ce soit au niveau du vestiaire, au niveau de. Du jeu en lui-même, c'est quelqu'un qui a un peu partout, qui récupère, qui. Et il fait un début de saison, ma foi, on touche du bois, mais qui est assez extraordinaire. Enfin, c'est vraiment l'un des rares à être vraiment niveau et à la hauteur, et plus qu'à la hauteur, et à tel point qu'il a même inscrit. Consécutivement des buts sur au moins un but sur 5 matchs en Liga, ce qui était il a donc égalé la performance de Diego Forlan, qui commençait à dater un petit peu. Et ouais, comme vous dites, c'est vraiment l'homme providentiel, je sais pas, mais en tout cas c'est évidemment, comme toujours, une des clés, la clé de la bonne saison potentielle de Villarreal. On sait que la saison où Villarreal va au bout en Europa League, il fait la saison de sa carrière, qui lui a valu sa sélection pour l'Euro, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important, quoi. Et encore une fois, j'ai le sentiment que lui, il a passé un cap, dans le sens où ses blessures à répétition, ça venait aussi beaucoup d'une appréhension, d'une peur légitime après ces grosses blessures qui lui ont coûté très très cher, au niveau de Villarreal ou de la sélection. et qu'il était, il marchait toujours un peu sur des œufs. Et là, on a l'impression que c'est moins le cas, que peut-être qu'en plus de la préparation physique, alors qui a peut-être pas été extraordinaire au niveau global, mais en ce qui le concerne, en tout cas, a priori, lui, il est dans le coup. Et il y a eu aussi un travail psychologique assez important qui a été effectué de son côté. Je ne sais pas de quel ordre, mais dans tous les cas, on a le sentiment de. Encore une fois, à chaque fois, je dis ça, je pèse mes mots et je touche tout le bois que je peux toucher autour de moi, mais parce qu'on a, toujours un peu cette crainte, quoi. Et d'autant plus après un tel début de saison. Mais non, il est évident que c'est vraiment le joueur clé, le joueur phare de cette équipe. C'est le dernier vrai, enfin le lien encore entre le Villarreal d'avant, c'est le Villarreal d'Emery de 2021, et celui-ci aujourd'hui. On a le sentiment que c'est vraiment le dernier à être aussi fort aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Donc, en espérant encore une fois en touchant du bois, et puis je pense qu'il faut y aller beaucoup à l'économie, et c'est ce qui est fait avec lui depuis le début de saison. Il faut pas le brûler, faire très attention, d'autant plus que bon, on y reviendra juste après, mais la fin d'année va être très très éprouvante. Donc là aussi, il va falloir savoir le gérer, et ça aussi, ça sera très très important pour la suite de la saison.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Toi, du coup, Ruben, pareil, un mot rapide, on arrive sur la fin du podcast, mais justement, qu'est-ce que tu penses jusque-là de Gerard Moreno?
Bah, effectivement, c'est-à-dire qu'on, Cyril l'a bien dit, on voit, en plus de voir, on sait déjà que c'est quelqu'un évidemment de très important de par le rôle qu'il a, mais aussi, enfin, de par en tout cas le poids qu'il a dans le vestiaire. C'est quelqu'un qui évidemment apporte beaucoup, qui, bon, on l'a dit, effectivement, a quand même traversé ces dernières saisons, justement des saisons assez assez difficiles. Et dernièrement, non, bah voilà, je vais pas forcément compléter beaucoup ce qu'a dit Cyril, mais moi ça me fait plaisir en tout cas de revoir un joueur qui petit à petit aussi reprend une certaine forme de plaisir à jouer. En tout cas, moi, je souhaite qu'on revoie évidemment le joueur qu'on connaissait avant ses blessures, qui était décisif pour Villarreal, qui était décisif aussi en sélection. Mais voilà, je souhaite juste simplement que ça se maintienne, parce qu'on avait déjà parlé il y a quelques temps de cela aussi. Mais effectivement, le Villarreal avec et sans Gerard Moreno, il est on voit la différence, en tout cas elle se note. Donc effectivement, oui, c'est quelqu'un qui pèse beaucoup, qui voilà, qui est en plus beaucoup apprécié par les supporters aussi, qui voilà, en tout cas mérite de revenir au niveau qu'il connaissait avant toutes ses blessures. Et voilà, dernièrement, en tout cas, ça fait plaisir de le revoir marqué, décisif, et puis apporter à son équipe, même si les résultats ont parfois manqué. En tout cas, on voit que c'est un des joueurs qui est un peu, voilà, de ceux qui montrent le chemin à suivre, on va dire.
Ouais, tout à fait. Ben, c'est vrai que moi aussi, je tiens ce joueur en haute estime, même s'il a un passé de joueur de l'Espagnol et qu'il aime bien se friter avec le Barça. Non, c'est vrai que c'est un joueur qui transforme vraiment l'attaque. C'est un attaquant ultra complet, toujours disponible pour ses partenaires, qui sait finir, mais qui sait aussi les mettre dans les meilleures dispositions, décrocher quand il faut décrocher, jouer entre les lignes, semer la zizanie dans la défense adverse. Donc c'est vrai que c'est une très belle arme pour Villarreal. Et puis pour finir ce podcast, ben, un peu à la manière de celui qu'on avait tourné sur l'Atlético de Madrid, on va revenir un peu sur les derniers matchs qui attendent Villarreal sur cette fin de saison, et tu vas nous donner un peu ton avis là-dessus, Cyril. Des matchs qui sont pas faciles à jouer, parce que mine de rien, la qualification en Ligue Europa, elle est pas non plus certaine encore, même si ça devrait le faire. Il y a la réception d'Osasuna pour la reprise ce dimanche. Il y a un déplacement à Séville, au Pizjuan. Il y aura une réception à nouveau de la Real Sociedad, un déplacement au Bernabéu, une réception du Celta Vigo qui, pareil, lui aussi est en urgence dans ce début de saison. C'est un gros calendrier qui attend Marcelino. On a commencé à l'évoquer un peu plus tôt dans le podcast. Toi, un peu, comment tu vois ces matchs et quel est ton sentiment par rapport à ces derniers?
Ah, ça va être copieux, très très copieux, menu copieux avant le menu des fêtes. Mais oui, je dirais que presque, parce que ce qu'on pourrait en venir à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que l'urgence de l'urgence, c'est l'Europe. Et globalement, bon, jusqu'ici, on a réussi à limiter les dégâts avec cette victoire. Je sais même pas comment. Je sais pas encore aujourd'hui. Je sais même pas comment on a réussi à gagner ce match contre Rennes, mais on a réussi à le gagner. Et puis même ce match contre le Maccabi Haïfa dans des conditions particulières pour tout le monde, mais notamment pour cette équipe-là qui n'avait pas joué un match depuis plus d'un mois. Enfin bref, on connaît le contexte. On a réussi quand même heureusement à assurer l'essentiel. Et là, le gros du gros va se jouer sur ce match contre Panathinaikos très rapidement la semaine prochaine. Et d'ailleurs, c'est assez ironique parce que c'est face à ce même adversaire que Marcelino a mordu la poussière en qualification pour la Champions League alors qu'il était entraîneur de Marseille. Et là, il a sûrement l'occasion de qualifier Villarreal définitivement pour le prochain tour en Europa League. Donc, voilà, en cas de victoire sur ce match-là, ce sera bouclé. Après, reste éventuellement, pourquoi pas aller chercher la première place à Rennes, qui apparemment a quand même des petits soucis lui aussi de son côté ces derniers temps. Donc, bon, pour l'Europe, on va dire que c'est plutôt confiant, quoi, même si là aussi, il y a toujours une rotation qui est effectuée, qu'on aura pour l'occasion de voir des garçons, des jeunes qui jouent avec la B, comme Carlos Romero à gauche ou Altimira à droite, qui seront là aussi peut-être pour économiser un Foyt ou un Pedraza sur les côtés qui reviendront tout juste. Donc, ces garçons-là auront sûrement un rôle à jouer. Peut-être aussi des revenants comme Coquelin, on espère, qui lui, il est blessé depuis le mois de février. Il aurait dû reprendre il y a peu de temps, avant le match de Copa del Rey, premier tour de Copa del Rey très récent. Mais bon, finalement, on a préféré prendre toutes les précautions et j'espère qu'on va revoir un Coquelin à son meilleur niveau, revanchard. Après, oui, en Liga, c'est vrai que le calendrier, bon, il est coton parce qu'il y a ce déplacement à Séville, qu'il y a ce déplacement à Madrid juste avant les fêtes, juste avant Noël. Mais bon, là, pour en revenir là aussi à ce qu'on disait avant, c'est vraiment au niveau européen que l'essentiel va se jouer, et d'abord par ce match presque à élimination directe contre Panathinaikos. Qui va venir très vite la semaine prochaine. Et après, advienne que pourra, il faudra espérer encore une fois que que les garçons qui reviennent, comme Foyt, Pedraza, Coquelin, peut-être Suarez, reviendront bien et vite, et que les jeunes qui sont amenés à assurer un petit peu, à prendre leur place au sein de cette équipe première, eh bien, ou même comme le jeune Pascual, l'attaquant qui joue plus souvent avec l'équipe B, mais qu'on a été amené à voir de temps en temps avec l'équipe A, prendra peut-être une vraie dimension, une vraie place là aussi pour marquer des points pour l'avenir par rapport à cette fin d'année et ensuite par rapport à la deuxième partie de saison.
Ben écoute, je pense que c'est parfait, Ruben, pour un peu terminer, pareil, sur ce qui attend Villarreal. Bon, je pense que Cyril a très bien décrit la situation, mais toi, comment est-ce que tu vois leur fin d'année?
Ben, c'est vrai que c'est un calendrier qui est plus que chargé, et puis en fait Villarreal reprend plutôt que les. Enfin la trêve se termine plutôt que les autres pour Villarreal, avec le contexte en plus on a vu des nombreuses absences, avec le contexte aussi d'un nouvel entraîneur. Donc ça a évidemment un calendrier chargé. Pas facile, mais en même temps, je trouve que, en tout cas pour ce qui est des rencontres de Liga, ce sont des adversaires qui vont être assez intéressants à voir justement pour les débuts de Marcelino, parce que ce sont des adversaires qui, voilà, sont plus ou moins, alors pour certains plus que d'autres, évidemment plus à la portée de Villarreal, mais en même temps des adversaires contre lesquels Marcelino, en tout cas Marcelino, on sait que c'est un entraîneur aussi qui aime bien, enfin qui. Généralement, en tout cas, c'est bien d'aborder les matchs face à des plus gros. On l'a vu dans beaucoup de clubs, d'ailleurs, pas forcément qu'à Athletic, mais je trouve que toi, le calendrier, effectivement, en Liga, même s'il est difficile, en tout cas, va servir un peu à observer ça. Et puis, effectivement, aussi, ça dépendra de la dynamique et de la fréquence de retour des absents, comme le disait Cyril. Mais Voilà, après, non, bah, évidemment, il y a la qualification européenne qui est assurée. Et puis surtout, en Liga, voilà, éviter de sombrer davantage. Je pense que Villarreal a quand même les moyens de prendre quelques points face aux adversaires qui va y avoir. Le match le plus difficile, évidemment, c'est le déplacement au Bernabéu. Mais au-delà de ça, sur les autres matchs de Liga, il y aura évidemment la réception de la Real Sociedad qui sera difficile, que ce soit le Celta, Osasuna ou Séville. Je pense que voilà, si le travail de Marcelino porte rapidement ses fruits, qu'il y a l'ambiance qu'il faut pour travailler sainement et retrouver les résultats, je pense que ce sont des matchs sur lesquels Villarreal peut grappiller quelque chose. Et puis après, évidemment, on verra pour ce qui sera de l'Europe. Le travail n'est pas encore fini, mais vraisemblablement, je rejoins un peu ce que vous disiez, ça devrait le faire également. Donc voilà, une fin de saison qui va être, une fin, pardon, d'année qui va être chargée. Et en même temps, je pense qu'il va être, voilà, intéressant de poursuivre l'évolution du club, l'évolution du travail de Marcelino. Et voilà, qui va permettre de terminer un peu, je vais pas dire forcément en beauté, parce que voilà, ça va être aussi des matchs difficiles, mais en tout cas avant une reprise en 2024, là je regarde le calendrier qui serait un peu plus facile, enfin pas forcément facile, mais en tout cas abordable
avec un gros derby.
c'est ça exactement, avec un gros derby contre Valence, mais de manière générale, à part le match contre le Barça qui arrivera fin janvier, ça devrait plus ou moins être plus abordable. Mais voilà, pour cette fin 2023, en tout cas, pas facile, mais en même temps, hâte de voir aussi l'équipe par rapport à tout ce qu'on attend d'elle.
Ouais, tout à fait. Et puis bon, ben, pour un peu terminer tout ça, le public du Bernabéu pourra dormir tranquille. Il n'y aura pas Samuel Chukwueze cette année, lui qui avait fait un match absolument incroyable l'année dernière là-bas avec deux magnifiques golasso. Je pense qu'on est arrivé au bout de ce podcast. Merci à toi, Cyril, d'être venu nous parler du sous-marin jaune. C'est vrai que on se disait ça en off un petit peu juste avant. Ça remonte la dernière fois où tu es venu nous parler et on avait bien besoin d'une grosse mise au point pour parler de ton club.
Mais comme d'habitude, mais merci à vous. Voilà, on se répète, mais c'est toujours un grand, grand plaisir. Et je salue le camarade Emeric qui faisait
Oui.
partie des 5000 courageux qui ont été voir l'équipe B hier soir à la Ceramica pour un match où on ne voyait rien, en fait, où il y avait du brouillard dans tous les sens. Donc voilà, je le salue lui aussi. Et ben merci, merci encore, à très très bientôt.
Exactement. Et puis merci à toi, bien sûr, Réfé. Je te laisse même le mot de la fin pour ce podcast.
Bah, toujours avec grand plaisir. Effectivement, il fallait faire un point sur Villarreal. On n'avait pas parlé depuis un petit bout de temps, et puis effectivement, l'actualité l'a posé. Et voilà, c'était par la même occasion de retrouver Cyril, justement. Donc, dans un numéro, je pense, très, très complet, qui est dans la lignée de, on le disait, celui sur Atlético de Madrid, qui a permis de, voilà, un peu faire le point sur un club dont on parle pas forcément énormément en dehors du coup de l'Espagne. On espère avoir apporté à nos auditeurs un peu de quelques éclaircies, en tout cas sur ce qui se passe du côté du sous-marin jaune. Et puis voilà, la trêve qui va petit à petit toucher à sa fin. Et donc la reprise de la Liga et des podcasts avec, on vous le dit pas encore à l'affiche, mais une prévia d'un match qui est pas mal attendu, qui est en même temps pas mauvais sur le papier. En tout cas, vous en saurez plus dans les prochains jours. Et puis voilà, fin de ce numéro. Merci du coup, Sacha, de l'avoir animé également. Et on vous souhaite en tout cas une très bonne fin de semaine, une très bonne trêve en tout cas. Et puis le retour de la Liga ce week-end. Voilà, et puis merci beaucoup à tous et à une prochaine.